Eh bien, c'est le moment de retrouver nos invités. Donc, il s'agit de Emmeline Hopi et Jérôme Alixan. Ils sont tous les deux cueilleurs et fondateurs de l'entreprise Milfolia, située à Entrage, qui est un joli petit village dans les hauteurs de Digne, à 10 km. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci d'être venus nous présenter votre métier de cueilleur. Vous allez un peu nous expliquer ce que ça veut dire et puis cette entreprise Milfolia. Alors, qui commence? Qui se présente?
Allez, je me lance. Ben, merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Moi, je suis donc Emmeline, issue d'une formation plutôt en environnement, écologie, biologie, etc. Voilà, j'ai un master en écologie et je suis botaniste de métier. J'ai exercé pendant 7-8 ans le métier de botaniste dans une association à côté de Montpellier.
Et moi, Jérôme, du coup, je suis issu d'une formation d'ingénieur architecte que j'ai complétée par la suite par une formation en permaculture, parce que je trouvais que ça manquait de vie, cette formation très technique. Et après avoir pas mal étudié la permaculture, j'avais eu envie de tester, en fait, de créer une entreprise basée sur les méthodes de la permaculture comme méthode de conception d'écosystèmes humains. Et c'est en rencontrant Emmeline, du coup, et sa passion et sa connaissance pour les plantes, qu'on a décidé de vivre ensemble l'expérience de l'entreprise et qu'on a décidé de créer Milfolia. Donc une entreprise basée sur un savoir-faire et sur une éthique des valeurs et une méthode de conception permaculture.
Donc une entreprise qui est toute jeune. Ça fait pas longtemps que vous êtes... Oui. Mis en route le bébé.
C'est ça, le bébé est né en avril 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi qu'on existe, on est immatriculé et donc qu'on a lancé la gamme sur le marché.
Donc des produits cosmétiques?
Oui, principalement des produits cosmétiques, donc c'est des formules qui ont été élaborées à partir des plantes sauvages que l'on retrouve Eh bien, à proximité du village, donc sur le Cousson principalement. Et donc du coup, des transformations de ces plantes-là, douces, traditionnelles, et principalement par macération huileuse. Donc on a une gamme assez élargie de savons, de baumes, d'huile de soins, d'huile de massage pour toute la famille. Et on propose aussi des tisanes, des mélanges de plantes, ainsi que des huiles au chanvre. Ça, Jérôme en parlera mieux que moi.
Des huiles au chanvre?
Oui, les huiles au chanvre, en fait, c'est une extraction par macération dans de l'huile d'olive, de sommité fleurie, de chanvre. Donc le chanvre, on ne le trouve pas à l'état sauvage. Celui-là, on le cultive, on le fait pousser. Et en faisant macérer, du coup, ces sommités fleuries, on extrait les propriétés du chanvre qui vont agir beaucoup sur la détente, favoriser le sommeil, diminuer l'anxiété, le stress, et amener un bien-être général.
Donc on le consomme comment? Ça se boit? Ça se met en massage ou...
C'est une huile sublinguale. Donc l'huile d'olive, c'est une huile qu'on va récolter nous-mêmes. On va cueillir les olives, faire presser l'huile. Le chanvre, on le fait pousser. On le fait macérer généralement avec une deuxième plante issue de nos cueillettes, la lavande par exemple, la mélisse. Et on va l'utiliser sous forme de petites gouttes sous la langue. Donc moi, je conseille 3 gouttes 3 fois par jour pendant 3 jours pour commencer. Et ensuite, voilà, le corps de chacun s'adapte et réagit différemment aux cannabinoïdes. Et donc, on adapte un petit peu en fonction de son ressenti. Mais globalement, on a vraiment des très bons retours sur ces huiles. Ça s'apparente un petit peu à ce qu'on peut trouver sous le nom d'huile CBD sur le marché. Mais c'est un processus de transformation qui est plus vivant.
Alors on va en venir sur le métier de cueilleur, parce que c'est... Nous, personnellement, Tiffany, on ne connaît pas forcément ce métier. Qu'est-ce que vous cueillez? Et donc, on a compris que c'était pour le transformer après dans vos produits cosmétiques. Est-ce qu'il y a des saisons pour cueillir? Et qu'est-ce qu'on cueille dans le département?
Oui, effectivement, on a des saisons de cueillette qui sont plus marquées, même si on peut quand même globalement cueillir toute l'année. Enfin, on va dire du printemps avec les bourgeons jusqu'aux petites baies qu'on va pouvoir trouver, les baies de genévrier, les baies d'aubépine à l'automne. Voilà, on va dire qu'on a 2-3 mois l'hiver qui sont un petit peu plus calmes au niveau de la cueillette, avec un gros pic quand même en mai-juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut cueillir? Beaucoup de choses. Sur Entrage, nous, on cueille une trentaine de plantes qui vont de la petite plante herbacée jusqu'à la feuille d'arbre, comme le frêne. On cueille des pétales d'églantier pour faire des tisanes. On cueille de l'achillée millefeuille pour faire des macérats huileux pour les peaux irritées. Voilà.
Du thym, du romarin, de la sarriette.
De la lavande.
Du frêne. Il y a beaucoup de plantes différentes au final. C'est vrai que là, c'est difficile de toutes les citer. Mais ça commence en mars, avril, avec la prime verte qui sort, le coucou, avec ses petites fleurs jaunes là, qui pointent dans les champs. Ouais. On le cueille du coup pour faire des macérats huileux. Et le coucou, il a des propriétés qui sont similaires à l'arnica. Mais c'est assez peu connu.
Donc l'arnica, c'est un calmant recommandé dans les coups, c'est ça hein,
pour oui, les c'est
coups,
ça.
Les bleus ou...
Oui, en huile de massage aussi sur les douleurs musculaires. Donc oui, effectivement, les ecchymoses et les douleurs musculaires et articulaires.
Donc le coucou, ça a les mêmes vertus, les mêmes propriétés?
Similaires. Ce n'est pas exactement les mêmes, c'est deux plantes différentes. Mais dans la bibliographie, en tout cas, on nous dit que ça a des propriétés similaires.
D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander encore sur ces cueillettes? Il y a des heures. Quelle est la journée type d'un cueilleur?
Aucune journée se ressemble forcément.
Et oui, parce qu'en fonction du temps évidemment aussi.
Oui, on va dire qu'il y a beaucoup de diversité chez les cueilleurs. Il y a plein de types de cueillettes différentes. Notre type de cueillette, c'est des petites quantités. On a la chance de pouvoir cueillir directement à proximité de notre atelier de transformation. Donc on va partir à pied de chez nous, panier au bras. On va marcher entre un quart d'heure et une demi-heure max. On va cueillir le matin. On ne fait pas des cueillettes plus longtemps que nous qu'une heure et demie, deux heures. On va retourner plusieurs fois puisqu'on est à proximité directe des sites de cueillette. Et une fois qu'on a fini notre cueillette, on va retourner directement à la maison, à l'atelier, qui est aussi la maison. Et on va transformer ensuite la plante. Donc soit on va la faire sécher dans notre séchoir, soit on va la distiller directement pour faire de l'hydrolat. Et une fois que la plante est sèche, on va en faire soit des tisanes, donc des mélanges de plantes séchées, soit on va en faire des macérats huileux. Donc on va les mettre à infuser dans de l'huile pour en extraire les propriétés. Et ensuite, ces différents macérats huileux seront utilisés, mélangés pour faire les produits cosmétiques, qui sont en fait des combinaisons de différents macérats huileux et huiles substances végétales pour cibler des usages particuliers. Comme par exemple le baume réparateur. Emeline, peut-être tu veux le présenter.
Oui, le baume réparateur qui a été pensé pour les peaux abîmées, gercées, crevassées. Donc il est vraiment bien utile en ce début de saison froide. Oui, on retrouve du coup du calendula que les gens connaissent pas mal. On a de la sauge aussi dedans et de l'achillée qui va avoir des propriétés apaisantes, cicatrisantes. Sur une base d'huile d'olive avec de l'huile de chanvre, du karité, de l'huile essentielle de lavande fine. Voilà, que des ingrédients en fait. Toutes nos formules sont composées que d'ingrédients naturels, pas d'origine naturelle mais naturels. Et issu de l'agriculture biologique, quand on doit se fournir, par exemple, en huile de chanvre ou en huile essentielle, ce sont des produits qu'on ne fabrique pas nous-mêmes, mais qu'on achète en local, et en agriculture biologique.
Et j'imagine qu'il faut faire attention au dosage des plantes en fonction comment on les associe. Est-ce qu'il y a des plantes qui, évidemment, ne supporteraient pas d'être assemblées à d'autres plantes Je vois, par exemple, quand on achète une crème dans les supermarchés ou ailleurs, il y a toujours les principes actifs, un pourcentage.
Oui.
Et ça, j'imagine qu'il ne faut pas dépasser, pas que ce soit trop actif pour éviter des allergies. Enfin.
Alors nous, dans nos produits, on a 100% de principes actifs.
100% de principes actifs.
Oui, ça veut dire qu'on n'a pas d'eau, par exemple, qu'on va retrouver dans les crèmes. Les crèmes que vous achetez dans le commerce, dans les supermarchés, c'est 80 voire plus de pourcentage d'eau. Mm-hmm. Nous, on n'a que du produit actif. C'est-à-dire que c'est des ingrédients qui vont agir directement sur la peau, qui vont avoir un bienfait pour la peau. Par contre, pour la formulation des cosmétiques, là, nous, on envoie notre formule à un toxicologue et chaque recette cosmétique est validée par le toxicologue. Donc, il y a des pourcentages effectivement à respecter, notamment sur les huiles essentielles, les proportions d'huiles essentielles. Voilà. Donc, il y a toute une réglementation en fait derrière les cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a ce passage-là par le toxicologue, donc qui fait l'objet d'un dossier d'information produit, un DIP. Notre établissement est déclaré à la NSM, donc l'Agence nationale de santé, comme laboratoire cosmétique. Et ensuite, chaque formule est déposée au portail européen, pour qu'il y ait un minimum de traçabilité entre le consommateur et le fabricant.
Parce que qui dit bio dit pas forcément sans danger. Enfin, c'est pas un critère. C'est bien, c'est mieux que les plantes soient bio, les produits soient bio, mais les quantités dans des mélanges peuvent être dangereux. Enfin, on voit ça
oui.
Pour le clou de girofle, par exemple, qui est utilisé contre les douleurs. Si on donne trop de gouttes de clou de girofle, ça peut être fatal aussi.
Oui. Les huiles essentielles en fait qui posent vraiment question, parce que finalement c'est les concentrations les plus fortes qu'on puisse retrouver dans le commerce et en libre accès, on va dire. Et donc du coup il peut y avoir un mauvais usage de ces huiles essentielles là, donc effectivement il y a des doses à respecter. Mais on en vient aussi par rapport aux cosmétiques biologiques à notre label, peut-être qu'on peut l'aborder,
oui.
Le label Nature et Progrès qui va un petit peu plus loin que le simple label agriculture biologique, puisqu'effectivement dans les cosmétiques bio, on peut avoir des ingrédients qui sont en tout cas pas autorisés, nous, dans notre label Nature et Progrès. Peut-être Jérôme, tu peux en parler.
Oui, en fait, la particularité de ce label Nature et Progrès, c'est que c'est un label qui est basé sur un SPG, c'est-à-dire c'est un système participatif de garantie. Ça veut dire que nous, chaque année, on va être audité par une personne pour vérifier si on a le label ou pas. Mais le SPG, ça fait qu'on peut avoir autant d'autres producteurs qui font partie de Nature et Progrès, ou des consommateurs aussi qui viennent nous voir. Et généralement, c'est un couple producteur-consommateur. Et ça permet du coup d'avoir un regard direct des consommateurs sur nos pratiques. Et c'est un label du coup participatif, donc du coup, il y a des commissions qui sont créées chaque année pour faire évoluer les chartes. Et ces commissions, elles sont créées de producteurs et de consommateurs. Et ça, du coup, j'insiste un peu dessus parce que le label bio, qui est un label, il est validé par un tiers. Donc il y a des organismes comme par exemple le Bureau Veritas ou d'autres bureaux de certification qui vont venir vérifier. Mais les règles, du coup, elles sont faites quelque part par un système descendant. On décide des règles au-dessus et ensuite on les applique en dessous. Donc ça, il peut y avoir forcément des conflits d'intérêts quelque part dans la manière dont on gère les règles. Tandis qu'avoir un regard du consommateur, moi ça me paraît être quelque chose d'hyper transparent, très horizontal, et forcément qu'on a un retour direct aussi des gens qui consomment nos produits. En France, c'est très peu connu. Il faut savoir que dans d'autres pays, je crois comme le Brésil notamment, quand on est issu en fait d'un système participatif de garantie, on a automatiquement un label équivalent à la bio. Donc c'est un système qui est assez développé dans pas mal de pays, assez peu dans le nôtre. Mais Nature et Progrès, c'est le premier label bio de France. Le label bio, c'est basé sur Nature et Progrès pour écrire sa charte. Ça, c'était dans les années 80, il me semble. Voilà, donc nous, on a décidé d'avoir ce label parce que dès le départ, on répondait complètement à son cahier des charges, qui, comme l'a dit Emeline, est assez restrictif, très précis, et parce que les valeurs nous parlent aussi, et que c'est pas que un label, c'est vraiment aussi une idéologie, quoi, un modèle de vie, un modèle d'échange, une manière de créer une entreprise et de vivre l'entreprise. Ça va plus loin que le simple label. Et on a un deuxième aussi label dont on peut parler. Alors c'est pas vraiment label, mais on est géopartenaire. Donc c'est-à-dire que on est en lien avec le géoparc, engagé à la promotion de ce territoire et à engager des actions en lien avec aussi les différents acteurs de ce territoire du géoparc.
Ça, c'est quelque chose de bien, ça, pour votre entreprise aussi. Enfin, pour. Parce que ça permet une visibilité importante.
Alors, importante, je ne sais pas.
Non.
Mais visibilité, oui. Mais ouais. En tout cas, oui, ça a créé du lien. Ça nous a fait rencontrer des gens, en fait, qui partagent aussi des valeurs communes et avec qui on interagisse. Enfin, c'est un réseau local et territorial. C'est vraiment ce qu'on cherchait avec cette entreprise. Enfin, comme je disais, nous, on n'invente rien avec Midefolia. On perpétue un savoir-faire. Et quand on cueille à Entrage, par exemple, et qu'on entend les cloches du village sonner et qu'on est quelque part un peu perdu dans un champ ou dans un sous-bois, moi, ça me ramène, je sais pas, 200 ans, 300 ans en arrière. J'ai l'impression de vivre dans un autre temps, comme si, en fait, y a quelque chose qui revivait à travers ces gestes. Et pour moi, le géoparc, c'est aussi ça. Ils sont très impliqués, finalement. Je trouve qu'ils ont une lecture très fine du territoire, de la manière dont on peut faire vivre et vivre avec ce territoire. Je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Et du coup, pour Midefolia, je trouve que c'est une bonne chose de participer à ça aussi et de véhiculer ces valeurs.
Bien. Donc, je rappelle que vous êtes Jérôme Alixan et Emeline Hopi, cueilleur et fondateur de l'entreprise Midefolia. Midefolia, donc, c'est issu d'une plante. Enfin, c'est le nom d'une plante.
Oui, on n'est pas loin. C'est issu de l'Achillée millefeuille. Son nom en latin, c'est Achillea millefolium. Et c'est notre plante un petit peu...
Favorite, emblème, emblématique.
Oui, c'est notre plante emblème, oui, voilà. Ouais. C'est notre logo, c'est la fleur d'Achillée millefeuille. Et du coup, millefolia, voilà, il y avait une bonne sonorité.
Un petit jeu de mots avec le féminin aussi. De millefolium, on passe à millefolia. Et c'est une plante qui est utile pour les femmes, puisque c'est une plante qu'on va utiliser quand on a des règles douloureuses, notamment. C'est une plante aussi qui est utile aux hommes. On l'appelle l'herbe au charpentier, l'herbe au bûcheron, puisqu'elle va couper le saignement. Et bûcheron, charpentier, c'est pas des petites coupures.
Eh oui.
Donc du coup, ça nous a plu aussi comme symbole.
Alors... Combien, donc une trentaine de plantes que vous cueillez régulièrement, enfin, en fonction des saisons. Donc vous cueillez une heure et demie, et après, c'est quoi le travail? C'est le travail de transformation immédiatement, où il faut laisser un certain temps pour faire sécher les plantes? Est-ce que toutes les plantes doivent être séchées avant d'être transformées?
Ça dépend, oui, ça dépend effectivement des plantes et ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est principalement mis au séchoir pour déjà faire les tisanes et pour faire les macérats huileux, puisqu'on part pour faire un macérat huileux, on utilise la plante sèche pour éviter tous les risques de rancissement d'huile et de moisissure, etc. Et après, la plante fraîche, elle est utilisée pour faire de l'hydrolat, donc la distillation en fait, dans notre petit alambic en cuivre traditionnel. On fabrique des hydrolats, c'est trop petit pour faire des huiles essentielles. On doit produire à peu près 10 ml d'huile essentielle à peine à chaque passe. Donc on est vraiment sur la valorisation de l'hydrolat. Et puis à l'avenir, l'année prochaine, on commence déjà à faire nos tests, en tout cas en usage perso, sur les alcoolatures et la gémothérapie.
Alors on rappelle ce que c'est, l'un et l'autre.
Alors les alcoolatures, c'est des macérats hydroalcooliques de plantes. Donc on va récolter la plante fraîche et on va la mettre à macérer dans de l'alcool pendant plusieurs jours. Ensuite on filtre et on va utiliser cette solution-là en mélange sous forme de gouttes, en mélange dilué avec de l'eau. Et la gémothérapie, ça c'est un petit peu plus récent, les alcoolatures, c'est depuis que l'alcool existe. on exploite ce procédé de transformation depuis le Moyen-Âge. La gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons. Et du coup, ça c'est un peu plus récent. Et du coup, on fait macérer les bourgeons dans une solution d'alcool, d'eau et de glycérine. Voilà, donc ça va être intéressant pour les personnes qui ne tolèrent pas l'alcool, puisque le dosage d'alcool est très faible, et notamment les femmes enceintes, les enfants, etc.
Et par exemple, y a la mode au changement de saison, on fait macérer les bourgeons de... Quelle est la plante dont on parle souvent pour drainer?
Alors, on parle du. Oui,
c'est
des plantes.
C'est le bouleau.
Oui, alors il y a la sève de bouleau. Donc, ça, c'est la sève de l'arbre. Il y a beaucoup de plantes qui sont un peu détox, qu'on utilise, qui sont cultivées, souvent, très souvent cultivées, l'artichaut, le radis noir, etc. Nous, par exemple, on va pouvoir récolter les bourgeons de genévrier commun, donc au mois de mars, par là. Et du coup, le genévrier est très diurétique, donc il va pouvoir aider à éliminer les toxines accumulées pendant l'hiver.
Qu'est-ce que je voulais vous poser comme autre question ? Tiffany, tu as des idées ? il y en a mille et une question. Est-ce qu'on peut vous demander quel est le... Donc, vous cueillez, vous transformez. Après, évidemment, il y a l'aspect promotionnel, enfin,
vente.
De vente. Donc, est-ce que vous allez sur les marchés, les foires artisanales où est-ce qu'on vous retrouve et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier que vous avez choisi ?
Alors oui, la vente, c'est vrai que c'est une grande question parce que c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre d'une entreprise, quoi. Il faut arriver. On a beau faire des bons produits, si on ne sait pas qu'on les fait, ben finalement, on va pas continuer à les faire très longtemps. Donc nous, on avait commencé sur les deux premières années à faire des marchés. Donc on faisait les artisans sans vitrine avec la chambre des métiers de l'artisanat. On se déplaçait dans le 04 et dans le 05 dans plein de villages différents. C'était des foires qui duraient toute la journée. Et au bout de 2 ans, on s'est retrouvé pas mal épuisé en fait par ces foires. Ça nous a permis d'être au contact avec les gens, d'avoir beaucoup de retours sur nos produits, d'apprendre à parler de ce qu'on faisait, de commencer à avoir aussi une liste avec des emails pour alimenter la newsletter. On a commencé dès le début de l'entreprise à faire un site internet. Et pour nous, on sait que quelque part, on ne peut pas couper à ce mode de vente qu'on apprécie aussi, parce que ça permet de toucher énormément de gens sans avoir à se déplacer. Et même pour les Dinois, on propose de valider des commandes sur notre site internet et on vient livrer directement sur Digne. Pour nous, c'est un vecteur qui est très pratique. On propose aussi de venir à l'atelier directement pour acheter des produits. On propose notamment des ventes après nos animations. Donc quand on fait des balades botaniques, quand on fait des ateliers cosmétiques, quand on fait des journées d'initiation à la distillation par exemple, on présente nos produits et puis on explique. Enfin, c'est toujours intéressant puisqu'on a vu une partie de notre métier et du coup de voir le produit à la fin, on a un regard un peu différent dessus. On se rend un peu plus compte de ce qu'il y a derrière. Et on a aussi des boutiques. On n'en a pas beaucoup. À Digne, on a le Musée Promenade, le Noussa Café, en face de la maison Alexandra David-Nil. On a la maison de produits de pays à Castellane. Et on a une boutique à Saint-André, dont le nom m'échappe. Et la boutique est sur la place de la Fontaine, du coup.
Donc c'est là où on peut retrouver vos produits. C'est ça ?
Oui. Là, il y a nos produits à la vente. Mais le plus simple, c'est soit de nous appeler, passer à la maison pour organiser un rendez-vous qu'on les présente en présentiel. Et sinon, c'est d'aller sur le site internet millefolia.co, millefolia.fr, et de regarder directement sur la boutique en ligne. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On est là pour ça.
Est-ce que vous dépendez de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ?
Oui, on dépend de la chambre des métiers. On est des artisans.
Voilà.
Oui, chambre d'agriculture, oui, il en était question à voir comment notre activité de
parce qu'il de est,
production
existe,
de plantes.
Où il existait, je ne sais pas, les journées bienvenues à la ferme qui permettaient aux gens de venir visiter et en même temps vous créer un événement. Enfin...
Oui, ça c'est réservé, il me semble, hein, aux agriculteurs uniquement.
Aux fermes. Ouais,
de ferme en ferme.
Aux fermes, ok. Ouais. J'imagine que vous avez assez de boulot comme ça, mais prendre des stagiaires ou organiser des stages de cueillette, ça pourrait faire partie de vos activités aussi ?
Oui, on propose déjà un groupe Facebook, un groupe pas Facebook, WhatsApp,
oui.
Où on invite à venir nous accompagner quand on fait des cueillettes. Donc voilà, il suffit de, enfin c'est vraiment libre accès à tout à chacun de s'inscrire sur cette liste-là et d'en repartir quand il veut. Et en tout cas, on propose, nous, les moments de cueillette où on peut accueillir des gens. On a une stagiaire, normalement, qui va venir cet hiver en observation. Elle est en école d'herboristerie, elle avait envie de voir certaines choses, dont la distillation. Mais on voilà, on n'accueille pas forcément de stagiaires sur le plus long terme parce que on a cette activité-là de cueillette transformation, mais on a d'autres métiers aussi à côté, donc on n'est pas à temps plein sur l'activité de cueillette et transformation. Et donc du coup, encadrer un stage long, voilà, avec des horaires tous les jours, etc., c'est un peu plus compliqué pour nous.
Ah, vous tous les deux, vous faites un métier en parallèle de cette activité-là?
Oui.
Oui, alors ça fait beaucoup de travail tout ça. Oui, ben, je vous demandais la journée type, mais effectivement...
Oui, en fait, on a une entreprise qui est Mille et Folia, mais au sein de cette entreprise, on est vraiment pluriactivité. Emmeline, elle a continué à exercer son métier de botaniste pour des bureaux d'études, et moi, je continue à exercer mon métier d'architecte pour des projets un petit peu atypiques autour de Digne et un peu plus loin. Et un site d'ailleurs qui s'appelle permatecture.fr, permatecture comme permaculture et architecture. Donc pareil, c'est appliquer les principes de la permaculture à l'architecture.
Oui, c'est un site où on peut voir les réalisations que tu as menées ces dernières années.
Oui, ouais.
Donc est-ce que c'est deux métiers à mi-temps
On ne calcule pas
non,
trop le
c'est
temps.
Pas vraiment...
Aucune journée se ressemble, et puis c'est en fonction des besoins, des impératifs. En saison de cueillette, forcément que Mille et Folia, ça prend beaucoup plus le pas sur le reste. Et puis là, l'hiver, moi je suis pas mal sur l'architecture, on essaie d'équilibrer et puis de faire vraiment au jour le jour aussi en fonction de ce qui arrive. C'est dur de planifier, de prévoir avec autant d'activités.
Bon, qu'est-ce qui vous plaît le plus donc dans votre métier? Donc on a vu, il y a la cueillette, il y a la transformation, il y a la vente, il y a les réseaux sociaux aussi. Enfin, la communication, c'est aussi un art à part entière. Il faut savoir se vendre.
Oui, il a fallu s'y mettre aux réseaux sociaux. Donc on est présent sur Facebook, sur Instagram et puis voilà, sur notre site internet qui nous demande quand même pas mal de mises à jour. On a régulièrement des nouveaux produits aussi qui sortent, donc à chaque fois on passe un petit peu de temps sur le site. On fait des newsletters, donc il y a une grosse partie communication, on est quand même très présent. Et après, moi, pour répondre à votre question, ce que je préfère, c'est très difficile. Et je passe également beaucoup, beaucoup de temps à consulter des ouvrages et à me renseigner, en fait. Et dès que j'ai une personne qui me demande un conseil ou que je découvre une nouvelle plante, je passe beaucoup de temps à creuser derrière sur les propriétés de la plante, sur les méthodes de transformation. Et puis, on continue de s'améliorer sans cesse.
Oui, vous continuez d'être chercheur.
Oui, quelque part un peu chercheur, oui.
Moi, je pense que ce que je préfère dans ce métier, c'est vraiment ce contact intime qui se développe avec les plantes quand on apprend à les connaître. C'est comme si on... c'est comme une personne, en fait. On rentre en contact, on connaît leur caractère, on connaît leur lieu de vie, on connaît leurs détails aussi, on les regarde de plus près. Et je trouve que c'est un espace qui est intime pour chacun, mais c'est vraiment une porte qui s'ouvre vers l'autre, parce que le végétal, c'est l'altérité, en fait, c'est des organismes de vie qui sont très très différents de nous. Et en même temps, il y a cette connexion qui se crée. Et moi, je pense que c'est ça que je préfère, cette découverte, en fait.
Donc, si on veut vous commander des produits ou en savoir plus, il vaut mieux vous téléphoner, il vaut mieux envoyer un mail, il vaut mieux aller sur un site ou sur un Facebook ou sur un WhatsApp.
Mais on va peut-être en profiter pour vous donner deux rendez-vous en novembre. Il y a les arts du soin à Thoar le 9 novembre. On sera présent, je crois, sur toute la journée. On aura un stand, donc c'est l'occasion de découvrir nos produits, d'échanger avec nous, de les tester les produits. Et il y a un deuxième événement aussi au Noussa Café. Donc c'est un jeudi soir de 18h à 20h le 21, si je ne me trompe pas. Et là, ce sera plus sous forme de mini-formation, donc il y aura une présentation de Mille Folia. Ce sera en duo avec Clémence de Skin by Inanna, qui est une facialiste sur Digne-les-Bains. Et donc ce sera l'occasion de venir découvrir les produits, d'apprendre à créer une routine de soins naturels et saines.
Donc ça, c'est deux moments où vous pouvez nous voir avec le stand et les produits. Oui. Et sinon, le plus simple, ça reste le site internet, parce qu'il est mis à jour tout le temps. Il y a toutes nos références dessus. Si jamais vous voulez découvrir les produits et que vous n'êtes pas disponible aux dates où on est de sortie, faut nous appeler et prendre rendez-vous directement avec nous. Les contacts sont soit sur Google Maps, soit sur le site internet. Et voilà, sinon, voilà, pas hésiter à nous appeler, nous envoyer un mail s'il y a des questions. On répond à tous les mails, tous les appels.
Avec volontiers, avec grand plaisir.
Jérôme et Emmeline, merci beaucoup. Et puis, vous revenez
merci
quand vous.
Vous
voulez, hein, nous parler de vos cueillettes et de vos événements à venir. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Odile.
Au revoir.
Au revoir.